Vous écoutez France Culture. France Culture, tout de suite, le journal. Le journal est présenté par Antoine Mercier.
Bonjour. Au septième jour de l'offensive contre le Hamas à Gaza, l'armée israélienne annonce avoir abattu un drone tiré de la bande de Gaza, avoir visé par ailleurs plus de 200 objectifs cette nuit. La presse israélienne évoque par ailleurs l'hypothèse d'un accord international visant à désarmer le Hamas, comme ce fut le cas pour les armes chimiques syriennes, précision de Daniel Tabor. Plusieurs manifestations de soutien aux Palestiniens se sont déroulées en France hier, avec plusieurs milliers de personnes à Paris, de Barbès à la place de la Bastille. Un certain nombre de manifestants ont tenté de se rendre vers des synagogues voisines. Récit et analyse de Frédéric Mettezo. Paris a officiellement mis fin hier à l'opération Serval au Mali, qui va être remplacée par une opération plus large, permanente, de lutte contre le terrorisme au Sahel. Explication avec Michel Polaco. Et puis dans une tribune publiée ce matin par Libération, une soixantaine de personnalités pressent le chef de l'État de s'opposer publiquement à l'admission par le droit des contrats de mère porteuse, sous peine de voir émerger un marché des bébés. C'est un dossier suivi par Aurélie Kiffer. L'offensive israélienne contre la bande de Gaza est donc entrée ce matin dans son septième jour, avec de nouvelles frappes qui ont atteint les installations des brigades de la branche armée du Hamas. L'armée israélienne qui a par ailleurs annoncé avoir abattu ce matin pour la première fois un drone qui était donc tiré de la bande de Gaza, Daniel Tabor.
La branche armée du Hamas a lancé tôt ce matin un petit drone bourré d'explosifs. Il a été intercepté et neutralisé par un missile patriote au-dessus de la plage d'Ashdod. Et le Hamas menace d'en envoyer encore une dizaine. Parallèlement, les tirs de roquettes n'ont pas cessé, surtout le sud d'Israël. Et la zone d'Ashkelon vient d'être décrétée zone militaire fermée. L'aviation israélienne poursuit également ses raids sur la bande de Gaza, où le bilan des victimes est toujours lourd. À Jérusalem, le Premier ministre multiplie ses consultations sécuritaires. On réaffirme que l'option d'une offensive terrestre restreinte avec des objectifs très précis est toujours examinée. Le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, durcit lui encore plus le ton. Il affirme qu'il faut éradiquer le pouvoir du Hamas et exiler ses dirigeants.
Et malgré donc les appels de la communauté internationale, ni Israël ni le Hamas ne semblent prêts à négocier pour l'instant la fin des hostilités, même si on évoque, Daniel Tabor, ce matin dans la presse israélienne l'hypothèse d'un accord international.
Dans les coulisses, l'hypothèse d'un cessez-le-feu avec des garanties internationales solides est évoquée. Un scénario semblable au dispositif international mis en place pour éliminer les armes chimiques en Syrie pourrait entrer en ligne de compte. Autrement dit, Israël exigerait une intervention sur le terrain d'experts et d'observateurs internationaux pour désamorcer le Hamas au moins de ses missiles à longue portée. Mais on n'en est pas encore là. Aucune médiation sérieuse pour obtenir un cessez-le-feu n'est en vue.
Daniel Tabor à Jérusalem. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe se retrouvent au Caire. Le président palestinien Mahmoud Abbas qui demande à l'ONU de placer officiellement l'État de Palestine sous protection internationale. On va maintenant du côté de Ramallah. On est en ligne avec Nicolas Roper. Bonjour.
Oui, bonjour.
La position de l'autorité palestinienne est assez inconfortable et son soutien au Hamas reste pour l'heure verbal.
Oui, c'est un gouvernement palestinien entre deux feux qui a réclamé encore une fois ce matin un cessez-le-feu, tout en qualifiant l'opération israélienne avec des termes très durs. Il est question d'agression, de meurtre de civils et même de racisme. Le gouvernement palestinien est dans une position délicate en appelant à la fin des hostilités les autorités palestiniennes qui représentent en théorie les habitants de Cisjordanie et de Gaza. Elle demande donc implicitement au Hamas d'interrompre le flot de roquettes qui continue de s'abattre sur le territoire israélien. Une position difficile à entendre pour l'opinion publique palestinienne. Quelques rassemblements ont eu lieu ces derniers jours en soutien avec les Gazaouis et on a vu ressortir les drapeaux verts du Hamas, ce qui n'est pas au goût de tout le monde. Ce matin, un jeune Palestinien a été tué dans le sud de Hébron dans des affrontements avec l'armée israélienne. C'est dans cette région qu'ont été kidnappés et retrouvés morts les trois adolescents israéliens. Et c'est cet acte qui a poussé l'armée israélienne à intervenir, jugeant le Hamas responsable de ces meurtres. Les responsables palestiniens, le président Mahmoud Abbas en tête, avancent donc avec une extrême prudence. Des contacts sont quotidiens avec le Hamas et son chef Rached Mellal me confiait tout à l'heure un responsable de l'OLP. Un accord entre les différents semble pour le moment très lointain. Les autorités palestiniennes tentent donc de faire jouer une autre carte, celle de la pression internationale. Le gouvernement palestinien discute en ce moment avec ses alliés arabes pour tenter de présenter une résolution aux Nations Unies condamnant l'opération israélienne.
Nicolas Repère, merci beaucoup, en direct de Ramallah. En France, des manifestations en faveur de la population de Gaza et contre Israël ont eu lieu dans plusieurs villes. Plusieurs milliers de personnes défilaient ainsi hier de Barbès à la place de la Bastille à Paris. Un certain nombre de manifestants pro-palestiniens ont même tenté de se rendre vers les synagogues voisines de la rue de la Roquette ou de la rue des Tournelles. Des CRS ont dû intervenir pour les repousser, mettre fin à un début d'échauffourée avec des membres de la communauté juive. Frédéric Mettezo.
Oui, c'est ça. À Paris, 7000 personnes selon la police, 30 000 selon les organisateurs ont donc défilé, d'abord dans le calme, un cortège avec drapeau palestinien et keffiyeh et des slogans de soutien aux civils palestiniens, jusqu'à l'arrivée place de la Bastille où, selon l'agence France Presse, présente sur place, des manifestants s'en sont pris aux forces de l'ordre qui ont répliqué au gaz lacrymogène. Le gros de la foule s'est dispersé sous une grosse averse, il pleuvait à Paris, mais une centaine de manifestants se sont alors rendus autour de deux synagogues du quartier et notamment rue de la Roquette où des fidèles juifs étaient réunis. Le bâtiment a été encerclé par ces manifestants. D'après le président de l'Union des étudiants juifs de France, certaines personnes ont tenté de forcer l'entrée et jeter des projectiles contre le bâtiment. L'avocat Arnaud Klarsfeld parle même de slogans antisémites, mort aux juifs ou Hitler avait raison. 9 personnes ont été interpellées selon la préfecture de police et 6 policiers ont été blessés.
Peu après, communiqué du Premier ministre Manuel Valls qui condamne avec la plus grande fermeté ces violences.
Oui, Manuel Valls ou encore SOS Racisme, je cite l'association, le soutien aux Palestiniens ne peut être la haine des Juifs. Aider cette zone en conflit, c'est exporter la paix et non importer la haine. Les propos sont donc similaires chez Manuel Valls. La France ne tolérera jamais que l'on essaie par la violence d'importer sur son sol le conflit israélo-palestinien. Mais 24 heures avant ces incidents parisiens, c'est un peu ce qu'a fait Pierre Minard, qui est délégué fédéral d'Europe Écologie Les Verts. Il a tweeté après le jet d'un cocktail Molotov sur la synagogue d'Aulnay-sous-Bois, je le cite, « Quand les synagogues se comportent comme des ambassades, il n'est pas étonnant qu'elles subissent les mêmes attaques qu'une ambassade », fermez les guillemets. Éviter l'importation, éviter l'embrasement, voilà la volonté affichée du gouvernement. Mais à gauche, plusieurs élus critiquent le communiqué de l'Élysée mercredi soir. François Hollande avait apporté un soutien sans condition à Israël et sans déplorer les morts civiles à Gaza, rappelant tout au plus la nécessité de prévenir l'escalade des violences communiquées à minima, donc en faveur des Palestiniens. Dans les heures qui ont suivi, le chef de l'État a tenté de rééquilibrer son propos en téléphonant par exemple à Mahmoud Abbas. Mais à en croire le député PS Pouria Amir Chahi, le mal était fait. François Hollande a, je le cite, encouragé des personnes à la vengeance.
Frédéric Mettezo, merci. La préfecture des Alpes-Maritimes a pris ce matin un arrêté qui interdit tout rassemblement et défilé pro-palestinien ce 14 juillet à Nice, après plusieurs appels qui avaient été lancés sur les réseaux sociaux. De Serval à Barkhane, alors que le défilé militaire du 14 juillet se déroulait ce matin dans un contexte budgétaire tendu pour l'armée française, Paris a donc officiellement mis fin hier à cette opération Serval au Mali, opération qui va être remplacée dans les prochains jours par une autre, dénommée Barkhane, présentée comme une opération plus large, cette fois permanente également, pour lutter contre le terrorisme au Sahel et elle devrait mobiliser 3000 militaires français pour en parler. On est en ligne avec Michel Polaco. Bonjour.
Bonjour Antoine.
De Serval à Barkhane, alors c'est à la fois finalement un allègement mais aussi un élargissement de la présence française dans cette région.
Voilà, disons qu'on peut faire un bilan après 18 mois. L'opération Mali s'est achevée d'une certaine manière, c'est-à-dire que le Mali a recouvré sa souveraineté. Il y a eu 8 morts français, c'est trop, c'est beaucoup, mais enfin disons que cette opération s'est relativement bien déroulée. Maintenant, les conséquences aussi ne sont pas négligeables, c'est-à-dire que la plupart des islamistes militants et armés qui n'ont pas été réduits sont allés s'installer dans les pays riverains et donc ils existent toujours et il y a actuellement une bande qu'on appelle sahélo-sahélienne ou saharienne aussi, qui est un peu plus au nord, qui va de l'est à l'ouest de l'Afrique, qui va de la Corne de l'Afrique jusqu'à l'océan Atlantique, dans laquelle se trouvent beaucoup de groupes armés. Et par conséquent, les moyens qui étaient affectés au Mali, qui étaient de l'ordre de 3000 hommes, si vous vous souvenez, eh bien maintenant, ces moyens, en quantité, vont être affectés à la surveillance de cette zone avec un certain nombre de pays alliés pour pouvoir réduire ces foyers islamistes armés qui restent dangereux.
Concrètement, qu'est-ce qui peut se passer sur le terrain pour ces 3000 Français ?
Eh bien, écoutez, les moyens qui vont être utilisés aujourd'hui vont être des moyens de détection. Ça va être une guerre de renseignement, en fait. Ça va être des moyens de détection, des moyens d'identification, des moyens de poursuite, puis des moyens de frappe. Donc, on va toujours utiliser les forces prépositionnées dans certains pays, comme le Tchad, par exemple, c'est-à-dire les avions, les hélicoptères, les drones qui sont au Niger, les hélicoptères au Burkina Faso, les forces spéciales. Et tous ces gens-là, au fur et à mesure que des renseignements vont pouvoir être obtenus pour un certain nombre d'origine humaine, pour d'autres d'origine électronique, tous ces renseignements, une fois computés, vont servir à mener des opérations pour continuer à contraindre, si ce n'est pas possible de réduire totalement, les groupes islamistes armés.
Encore un mot, Michel Polaco, parce que ce matin, le chef d'état-major général Pierre de Villiers lançait ce matin dans le Figaro donc une mise en garde. Les forces françaises sont à 120% de leur capacité. On ne peut faire mieux avec moins. Est-ce que la France a vraiment aujourd'hui les moyens de ses ambitions pour combattre notamment les islamistes sur une si large zone ?
Eh bien, écoutez, la situation des armées françaises est effectivement grave. Je dirais presque heureusement que les seuls véritables combats qu'elle a menés sont des combats contre les islamistes en Afrique. Mais où sont les 20 000 hommes qui étaient capables d'être projetés à l'extérieur pendant que 50 000 étaient capables d'opérer à la défense du territoire ? Tout cela est bien loin. On avait dit qu'on sanctuariserait le budget de défense à 2% du produit intérieur brut. On est à moins d'un et demi. Les forces aériennes françaises ne peuvent pas toutes être entraînées et uniquement les équipages qui doivent effectuer des missions prochaines sont entraînées, que ce soit pour les équipages de transport ou les équipages de combat. Les marins ont un manque criant de matériel et d'entretien de leur matériel. L'armée de terre aujourd'hui est en forte réduction de ses effectifs et c'est pareil, un certain nombre des effectifs de l'armée de terre ne sont pas entraînés en vue d'opération et c'est pour ça qu'on a en quelque sorte les forces spéciales qui se substituent à ce qui autrefois était des forces tout court. Donc vous voyez, la situation est quand même extrêmement grave et je pense qu'effectivement on est arrivé à un moment où la réduction n'est plus envisageable, la poursuite de la réduction n'est plus envisageable.
Merci beaucoup Michel Polaco, en tout cas le chef de l'État va s'exprimer maintenant dans moins d'une heure, dans une demi-heure à la télévision, il va évoquer ces questions militaires. Et il s'efforcera plus généralement, selon ses communicants, de donner du sens à la temporalité du quinquennat. Le groupe Airbus annonce le lancement d'une version remotorisée de l'A330 et ce afin de rester attractif face au succès des avions long courrier de son concurrent américain Boeing. L'appareil baptisé A330neo sera motorisé par le britannique Rolls-Royce. Alors ça devrait permettre de réduire le coût d'exploitation par siège, c'est comme ça qu'on cause, donc dans l'aéronautique. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour,
ça réduirait ce coût de 14% et les salariés quand même s'inquiètent, les salariés d'Airbus, de la faiblesse des investissements.
Et oui, conséquence, certains sous-traitants se retrouvent même au chômage technique avec la baisse d'investissement dans de nouveaux modèles. Du coup, face au manque d'activité, en off, il serait même proposé à certains ingénieurs des bureaux d'études de Toulouse, la maison mère d'Airbus, de venir travailler dans les bureaux du groupe Airbus à Paris. D'ailleurs, dans la mesure où Airbus va commercialiser à la fin de l'année son nouveau long courrier de dernière génération, l'A350, on peut se demander pourquoi il fait le pari d'une nouvelle version de l'A330. Alors, même si c'est l'un des avions les plus vendus du constructeur, c'est un modèle qui a plus de 20 ans aujourd'hui. Alors certes, il consommera moins et il aura un champ d'action plus large. En réalité, même si le discours de Fabrice Brégier, le PDG de la branche aviation civile chez Airbus, est de dire que le groupe n'a jamais autant investi dans de nouveaux modèles comme la 400M pour le militaire, l'A320neo ou encore l'A350, il marque surtout un changement de stratégie de la part des actionnaires. Car qui dit de nouveaux modèles dit de très gros investissements en recherche et développement, ce qui veut dire moins de dividendes. D'ailleurs, le britannique Rolls-Royce, qui fournit les moteurs des longs courriers d'Airbus, n'a pas caché, il l'a dit ouvertement, qu'il allait réduire ses investissements et même faire une pause pour donner plus de dividendes à ses actionnaires. Alors, même si Airbus a connu une année record en 2013 avec plus de 1400 commandes, le groupe européen ne doit pas se reposer sur ses lauriers, car la concurrence dans les prochaines années pourrait s'intensifier, notamment avec l'arrivée du chinois Comac qui va sortir l'équivalent de l'Airbus A320, un monocouloir de la famille des moyens courriers qui pourrait être moins cher que l'Airbus A320. la 320.
Merci beaucoup. Hakim Kasmi, on termine avec cette tribune publiée par Libération contre la gestation pour autrui. C'est une adresse au président de la République, une soixantaine de personnalités qui demandent au chef de l'État de s'opposer à l'admission par le droit des contrats de mère porteuse sous peine, disent-ils, de voir émerger un marché des bébés. Aurélie Kiffer.
Le collectif pour le respect de la personne qui rassemble des chercheurs et universitaires opposés à la pratique des mères porteuses a effectivement convaincu Lionel Jospin, Jacques Delors, Yvette Roudy ou encore le conseiller de François Hollande, Bernard Poignant. Les 3650 signataires s'adressent au président de la République, qui a toujours rejeté la gestation pour autrui, pour qu'il s'oppose publiquement à l'admission par le droit des contrats de mère porteuse. Cette mobilisation fait suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme le 26 juin pour avoir refusé de transcrire à l'état civil les actes de naissance d'enfants menés par mère porteuse aux États-Unis. La France a théoriquement jusqu'à fin septembre pour faire appel, mais le gouvernement a indiqué qu'il ne contesterait pas l'arrêt. Les pétitionnaires s'insurgent donc. Comment allez-vous expliquer aux Français que s'ils ont de l'argent, ils pourront aller acheter un bébé à l'étranger et le faire inscrire comme leur fils ou leur fille à l'état civil français, demandent-ils. Pour eux, je les cite, il est concevable de trouver des solutions techniques pour améliorer la situation juridique des enfants présents sur le sol français sans succomber à ce qui est un triomphe de l'industrie de l'enfantement sur commande. Alors, ils ne précisent pas quelles solutions techniques, mais les parents intentionnels pourraient par exemple être reconnus comme tuteurs de l'enfant, une façon de simplifier sa vie quotidienne sans encourager un dispositif illégal en France. Les pétitionnaires demandent aussi un renforcement de la lutte contre la prospection de clients français par les agences de mères porteuses, allusion à l'agence californienne Extraordinary Conceptions, particulièrement active dans l'Hexagone.
Merci Aurélie Kiffer. La météo, un temps qui s'améliore cet après-midi. Quelques averses encore sur la moitié est, des températures en légère hausse de 20 à 29 degrés du nord au sud. Fin de cette édition réalisée avec Meta Chiteya. Je vous retrouve à 18h pour le prochain journal.